Seconde idée, chaud bouillant, il est là, il est là, François Angelier pour Mauvais Genre.
Bonsoir Arnaud, oui, ce soir à Mauvais Genre, la nuit dévore le monde, on parlera de films asiatiques, on parlera surtout de toutes les tentatives possibles, la peinture, la photographie, la radio pour capter les ondes qui viennent de l'au-delà. Ravi de vous retrouver en tout cas Arnaud, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et vous écoutez France Culture. Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. La Rochefoucauld. Et pas d'erreur, c'est Mauvais Genre. Mauvais Genre de sabre et de suaire ce soir. Mauvais Genre qui recevra en effet Antoine Guérin, fondateur et animateur cinéphile du label Spectrum, largement consacré au cinéma asiatique. Et en deuxième partie d'émission, Philippe Baudouin, animateur lui du label Spectral, éminent goûteur d'ombre et chasseur de spectres, dont pas moins de 5 livres, articles et préfaces sont parus récemment, touchant aussi bien les photographies funéraires que celles des rêves, le Paris et la peinture fantastique. Chronique en second temps d'émission signé Esther Teilhard et Fausto Fazulo. Les noces de l'arme de l'acier et de la brume, c'est maintenant sur France Culture. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Alors à Mauvais Genre, on a l'habitude des grands écarts et des tournants brusques et soudains. Et ce soir, bien ma foi, vous entendrez en première partie des bruits de sabres japonais, de sabres chinois. Vous entendrez des cris, des coups. Et en deuxième partie, ce sera beaucoup plus feutré, beaucoup plus angoissant, beaucoup plus spectral et inquiétant, puisque grâce à Philippe Baudouin, vous serez au contact avec l'au-delà et le paranormal. 5 livres pas moins, témoigne de son infatigable activité de chercheur. Bonsoir Philippe Baudouin.
Bonsoir François, ravi d'être à votre micro.
Bah écoutez, merci, nous ravi de vous voir assis en ce studio. Ça fait un certain temps que vous n'êtes pas venu. Depuis beaucoup de sueur ont coulé sous les ponts, mais enfin beaucoup d'eau, beaucoup de larmes ont été versées, puisqu'effectivement vous travaillez sur le manque, sur la perte, le deuil, et ce soir on va avec vous parler justement des photos de défunts, on va parler de la manière de faire revenir les morts de l'au-delà vers l'ici-bas à travers tout un tas d'ouvrages. Je ne les énumère pas maintenant, j'attendrai la deuxième partie. En tout cas, soyez le bienvenu.
Merci.
On entendra aussi Antoine Guérin et Patricia Avant du label Spectrum. Et puis Esther Teilhard, bonsoir.
Bonsoir François.
Alors le 20 novembre, c'est la sortie en salle du magnifique documentaire de Fabrice Duvels sur Béatrice Dalle en quête de Pasolini. Vous l'avez vu et vous allez nous en parler.
Je l'ai trouvé sublime et quel fantôme que celui de Pasolini.
Absolument, un fantôme ô combien insistant et c'est très bien. Bonsoir Fausto Fazulo.
Bonsoir François.
Alors on a mis l'émission sous le signe du deuil, et ben on va continuer avec Laure avec vous, un grand départ dans le monde du manga.
Le départ de Kazuo Umezu, dont le spectre, j'espère, hante ce studio aujourd'hui même.
Bah, il est le bienvenu en tout cas, s'il veut faire un petit signe, je ne sais pas.
Il n'hésite pas à se manifester, trouver, un petit toc-toc, nous sommes là.
Kazuo Umezu, manifestez-vous, nous sommes là pour vous entendre et pour vous voir, qui sait. En attendant, eh bien, on va rejoindre donc Antoine Guérin du label Le Spectrum. En effet, on fait le tour des labels cinéphiles. On avait commencé avec Patrice Véry, Extra Lucide. On avait continué avec Stéphane Bouillet pour Le Chat qui fume. Et là, c'est Spectrum, un label entièrement ou quasiment, puisque les choses vont changer un peu, consacré au cinéma asiatique, avec tout un travail extrêmement élaboré sur la présentation des films, les bonus, les copies, l'intégralité des films, évidemment. Et puis de très très beaux coffrets, Fausto.
Des coffrets avec des inédits, des films qu'on n'avait jamais pu voir en France auparavant, des films qui étaient sortis dans d'autres éditions mais qui aujourd'hui sont caduques. Donc un vrai travail à la fois d'héritier et puis aussi un travail avant-gardiste, puisque Spectrum Film est un éditeur véritablement défricheur.
Très bien, et bien la parole est à Antoine et Patricia, donc du label Spectrum. Eh Eh bien, Mauvais Genre continue son analyse de terrain des labels de cinéphilie de genre avec aujourd'hui Spectrum, qui a été fondé et qui est animé par Antoine Guérin, bonjour.
Bonjour.
Et Patricia Vent, bonjour. Je vous salue. Donc, on était avec le chat qui fume il y a quelques mois. Aujourd'hui, donc, avec Spectrum, je suis évidemment entouré de Philippe Rouillet et de Fausto Fazulo. Alors, très rapidement, pour nos éditeurs qui n'auraient pas encore eu la chance de découvrir et l'opportunité d'acquérir les productions Spectrum, rapidement, Spectrum, c'est quoi en une phrase?
C'est l'éditeur indépendant qui actuellement explore le mieux le continent asiatique, à la fois le cinéma de patrimoine, mais aussi des choses plus récentes.
Fausto Fazulo.
C'est à la fois un héritier et c'est à la fois aussi, d'une certaine manière, un avant-gardiste en termes d'édition. Et effectivement, on y trouve à la fois ce qu'on y attend en tant qu'amateur de cinéma asiatique et en même temps, on est également surpris par certains choix éditoriaux.
Parce qu'en fait, on découvre beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que on va pour et les éditions sont extraordinairement généreuses. Par exemple, on va parler de cette édition de Valiant Ones de King Wu. Bon, il y a encore un long métrage qui est offert sur un troisième Blu-ray parce que c'était l'assistant de King Wu avec la même actrice. Donc, hop, on vous donne quand même un cadeau et dans une version quand même 2K restaurée, pas un truc moche niveau VHS. Voilà, City Call Dragon, c'est cadeau. Vous achetez un produit et vous avez des choses encore en plus.
Antoine Guérin, vous êtes donc le Père Noël, héritier d'autres Pères Noël, et on va voir lesquels d'ailleurs, ils ont des noms, on les donnera. On va quand même commencer par votre parcours. Vous êtes lyonnais, vous avez été marqué, j'ai pu voir ça, j'ai pu lire cela, par des voyages en Asie. Alors est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur ces voyages en Asie, avant de passer à la cinéphilie, et où, quand, comment?
Alors avant l'Asie, en fait, je suis né en Normandie, je suis né au Havre, et ça a de l'incidence, puisque dans les années 70, on pouvait pas voir les films du tout, alors asiatique, on n'en parle même pas. J'ai fait mes études à Lyon, et ensuite je suis arrivé à Paris, où j'ai travaillé avec Jean-Pierre Dionnet, que vous connaissez bien.
Oui, on salue.
Voilà, et ensuite, effectivement, à la fin des années 90... J'ai eu la chance, grâce à Michel Journant du Hong Kong TDC, qui avait un mini-stand au marché du film à Cannes, qui en fait proposait, à l'époque où très peu de Français finalement allaient au marché du film pour acheter des films, m'a proposé de m'y rendre. Et là, il y avait quelques Français, dont Jérémy Soguet, hein, qui sera ensuite l'organisateur du Festival du film asiatique de Deauville. Et les premiers voyages, en fait, ont commencé comme ça. Et là, j'ai eu de la chance. Je suis tombé au bon moment, quand il fallait, et j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont permis ensuite d'avoir un gros réseau. Ensuite, avec Patricia, nous y sommes retournés en 2003, 2004. Pas que Hong Kong, la Corée du Sud également. Et Patricia qui est photographe, donc ça nous a permis d'élargir vraiment notre spectre. Et ensuite, pour arriver à Spectrum en 2009, on s'est dit, voilà, moi j'étais acheteur, en fait, j'ai travaillé pour des petits éditeurs, des boîtes plus grosses, et en 2009, je me suis dit, bon, maintenant qu'on a l'expérience, allons-y.
Et le carnet d'adresse, le réseau.
Le carnet d'adresse,
et le réseau. Parce que c'est aussi ça qui est compliqué. Pour être acheteur, il faut être les premiers sur la piste.
Quoi oui, acheter et à qui?
Oui. Et puis, il y avait déjà cette idée, il y a tellement de choses à sortir, en fait. Il y a tellement de films qu'on n'a pas encore vus, mais même maintenant, il y a tellement de surtout pour des histoires de droits et de matériel, que voilà, c'était... C'est Alibaba, enfin, c'est la caverne, vraiment.
Mais alors là, on est déjà très engagé dans votre carrière professionnelle. Remontons un peu le temps. J'ai lu, car on peut lire des choses sur vous sur Internet, que vous aviez été marqué d'abord par des images, et notamment les couvertures de positifs de films de King Wu. Ça entretenait chez vous un rêve, soit un rêve asiatique, un rêve de cinéma autre. Quel genre de rêve?
Oui, c'est exactement ça. En fait, au Havre, il y avait un bouquiniste où je récupérais plein de vieux numéros de positifs avec un format, et il y avait ces fameuses couvertures, toujours une image,
ouais.
Et il y avait Xu Feng, etc. Ouais. Et c'est vrai que c'est des images qui m'ont marqué. Et comme on ne pouvait pas voir les films, je crois que le premier King Wu peut-être que j'ai vu, c'est Les Héroïques, donc c'est Touch of Zen en VHS, en VF, tronqué. Mais avant ça, voilà. Et effectivement, ça a dû développer.
C'était le numéro
moi.
169,
voilà, merci.
De mars 75.
Nous parlons au directeur de Positif.
Avec cette image emblématique de Touch of Zen qui était passée à Cannes.
Tout à fait.
Et en fait, qui est sortie en salle 11 ans ans plus tard, il est sorti en 86, mais il est en compétition à Cannes, il a un prix.
Absolument.
Il a un prix, ouais, à Cannes, et pour autant, il ne sort pas. Donc il y a un entretien qui a été fait, qui est dans ce numéro, qui est fait par Michel Simon,
oui,
dont on salue la mémoire, qui nous a quitté l'an dernier, et ça fait pile un an. Et cet entretien nous a fait, enfin, moi je suis dans le même cas que vous, moi je suis à Angoulême, et c'est pas possible évidemment de voir. Il faut bien comprendre, il faut que nos auditeurs les plus jeunes comprennent qu'en 1975, il n'y a pas de DVD, il n'y a pas de Blu-ray, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de VHS.
Ah mais non, c'est complètement
dingue. Donc c'est impossible.
Il y a quoi? Il y a positif. Je vois où vous voulez en venir.
Il y a les trois chaînes de télé publique.
Oui, oui, donc, et il y a les comptes rendus des festivals qu'on peut lire.
C'est chaud, quoi.
Alors donc, le jeune Antoine Guérin, au Havre, dans les rues fréquentées par tous les marins du monde, achète des numéros de positif et rêve à l'Asie. Dionel, lui, vous a apporté quoi sur son érudition pathologique, j'ai presque envie de dire, sa générosité maladive?
En fait, j'ai eu le travail un peu rêvé, puisque quand j'ai été engagé pour créer une base de données de l'ensemble de ces collections, donc aussi bien à l'époque, donc beaucoup de laserdiscs, des VCD, mais également les bouquins. Donc c'était Boulevard des Capucines et un bureau énorme. Et donc voilà, vous vous retrouvez avec plein de films que vous pouvez pas voir, etc. Donc j'étais avec Patrice Véry à l'époque, hein, qui est donc extra-lucide.
Extra-lucide, oui.
Voilà, on l'a reçu aussi ici.
Voilà, donc c'était une belle petite bande. Donc ça nous a permis d'avoir accès à plein de choses. Et puis Jean-Pierre, ça va très vite dans sa tête. Donc il a toujours 1000 projets. Il nous permettait de lui donner beaucoup d'idées. Enfin voilà, non, c'était un échange vraiment... vraiment fructueux, c'est passionnant de travailler avec Jean-Pierre.
Fausto Fazulo.
Il y a une cinéphilie un peu parallèle, je ne sais pas si c'est le mot juste en tout cas, mais fétichiste, qui est celle du support. Et en fait, chez vous, cette cinéphilie-là, comment elle s'est développée? Est-ce qu'elle s'est développée justement à travers les supports du classique comme la VHS? Est-ce qu'elle a été complétée aussi par des supports qui étaient absolument inconnus en Occident comme le VCD, vous avez cité il y a quelques instants, qui était aussi un gros élément qui nous permettait de découvrir des films qui ne sortaient absolument pas en VHS par chez nous? Comment ça s'est passé, le laserdisc? Est-ce que tout ça, ça a nourri justement une cinéphilie fétichiste qui a ensuite conduit à ce métier d'éditeur?
Oui, d'abord je trouve que le format, le laserdisc, c'est très beau, hein, c'est de la taille d'un vinyle, donc au niveau design on peut vraiment faire des choses très très chouettes. Et après effectivement les films asiatiques, on pouvait les voir à un moment donné que en VCD et en laserdisc. Les LD c'était super cher, et puis c'était de l'UNTSC, donc il fallait avoir le lecteur en NTSC, il y avait tout un truc, mais voilà, l'objet c'est important. Et puis donc quand on a commencé à faire les choses avec Patricia pour Spectrum, on s'est dit soit on le fait très bien, Soit on ne le fait pas, en fait. L'idée, c'était de faire des beaux objets, c'était important.
C'est très aussi marqué par la collection VHS de HK Vidéo.
Voilà,
HK Vidéo, qui est la version pour le grand public de tout ça. C'est-à-dire que si on n'était pas sur ces marchés parallèle, j'allais dire, HK permettait d'avoir, notamment sur le cinéma de Hong Kong, le cinéma asiatique, c'est là qu'on a pu avoir les premiers John Woo, des films de King Woo, des films de Tsui Hark.
Et vu Scherzo un petit peu avant.
Oui, aussi, oui. Déjà Christophe Gans, hein, Scherzo Vidéo. Voilà.
Qui n'était pas spécialisé dans le cinéma asiatique, mais qui sortait quelques films asiatiques via Scherzo. Ouais.
On lui doit L'Enfer des Armes, le titre français. C'est Christophe Gans qui a trouvé le titre pour le film.
D'ailleurs, dans l'édition que vous venez de sortir, parce que à Spectrum, vous venez de sortir une très belle édition de L'Enfer des Armes, avec les deux montages, le montage cinéma et puis la director's cut, puisque le film était interdit à Hong Kong et que Tsui Hark a dû refaire des scènes. Vous avez gardé l'introduction de Christophe Gans de la précédente édition.
Oui, on a gardé le bonus. Alors il devait nous faire une nouvelle présentation. Bon, malheureusement, il était à Londres, il était pris pour le montage de son dernier film. Voilà, mais effectivement, c'était... Mais comme vous l'avez dit, HK Vidéo, ça a été un moment important, en fait, pour tous les cinéphiles, pour les fous furieux de l'Asie, parce que c'était eux qui, avec leur magazine, qui était un super magazine, HK Vidéo, et les DVD, toute la collection, ça nous a permis de
d'abord
découvrir...
D'abord les VHS, après les
tout
DVD...
À fait, ouais.
C'était comme ça qu'en France, on découvrait les films asiatiques. Si on n'était pas soi-même dans le business, si on était cinéphile, c'était des collections qui permettaient de voir les films.
Antoine Guérin, on voit un peu comment les choses se sont déroulées, des grands initiateurs, Dionnet, Christophe Gans, les opportunités qui s'ouvrent via des activités professionnelles, l'achat de films, les contacts, les réseaux internationaux. Mais sur votre cinéphilie propre, qu'est-ce que ce cinéma a pour vous toucher à ce point, pour lui consacrer quand même une firme d'édition complète et puis une espèce de
voir une vie.
Voir une vie, parce que quand même, quand on regarde... Passez-moi l'expression, vos produits, on sent l'amour. Ça sent pas le commerce, ça sent l'amour. Je veux dire par là qu'il y a quand même tout déjà dans la présentation, dans le choix des films, dans les bonus, on en a parlé, dans la construction un petit peu, c'est à la fois extrêmement méticuleux, c'est parfaitement fait. Qu'est-ce qu'il y a dans le cinéma qui vous a à ce point rendu fou furieux ?
Je pense que pour beaucoup, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Quand on a découvert le cinéma asiatique, donc dans les années 80 ou 90, il y avait une vitesse, une façon, une mise en scène, il y avait une énergie qu'on ne retrouvait pas ailleurs. Je pense par exemple à The Blade. Quand on voit The Blade, oui. c'est
film
complètement
de Tsui-Hark avec un célèbre combat de sabre dans une bambouseraie.
Voilà, c'est complètement
extraordinaire.
Dingue. De l'autre côté, quand on découvre Sears Go By de Wong Kar-wai, c'est une autre façon de raconter Hong Kong, l'amour. Et après, quand on commence à creuser un petit peu, et historiquement Hong Kong, voilà, redevient chinois en 97. C'est peut-être pour ça que ça explique qu'il fallait tout faire vite. La catégorie 3 arrive, donc c'est une classification.
Mauvais genre de Hong Kong.
Voilà, et sauf qu'une fois que le film est classé catégorie 3, la porte est ouverte à la débauche la plus belle et la plus pure. Donc c'était... on parlait du gore avec Philippe tout à l'heure, et tout ça peut contaminer toutes les cinématographies. Donc cette énergie-là, je pense aussi à Kitano grâce à Jean-Pierre, quand Sonatine est arrivé... Ça a fait quand même, ça a mis un petit coup de pied, je trouve, dans une certaine façon de faire. Bon, là, c'est du film de gangster, mais je pense que c'est ça qui, cette esthétique-là, en fait. Alors, je parle pas de la Shaw Brothers parce qu'on n'avait pas encore vu les films comme on les voit maintenant, restaurés, etc. Parce que René Château avait fait du boulot quand même avec La Rage du Tigre, tous ces films-là, mais. Quand on découvre maintenant...
C'était des versions coupées.
Déjà, c'était des versions coupées.
C'était des VF, des versions coupées. Là, tout d'un coup, tous ces films-là, grâce à des éditeurs comme vous et d'autres, on a accès à des versions intégrales. Et c'est assez extraordinaire.
C'est des redécouvertes complètes.
Et des restaurations. C'est d'une beauté folle.
Patricia.
Non, mais c'est vrai, Antoine, pourquoi l'Asie, quoi ? Qu'est-ce qui a fait que t'as
C'est peut-être le Havre, la porte ouverte sur...
Oui, je voyais les containers avec Hong Kong qui arrivaient.
Objet de rêve puissant.
Non, mais quand on découvre les films de King Wu, ça vole dans tous les sens, on n'a pas vu ça dans le cinéma américain, on ne voit pas ça en Italie, on voit d'autres choses. Mais et je pense que ça m'a touché...
Je crois que c'est un moment, c'est parce que c'est intéressant d'avoir énormément de cinéphiles qui sont très ancrés autour de ça. C'est aussi un moment où on a conscience que ces films existent et c'est le moment où on les voit pas vraiment. Enfin, il y a possibilité de les trouver, d'être explorateur comme vous l'êtes. Donc c'est encore plus exaltant. Parce qu'évidemment, Peckinpah, je sais pas quoi, Dario Argento, les films sont là. On peut s'en régaler, mais là, il y a quelque chose, il y a une cinéphilie active à mettre en route. C'est-à-dire que d'une part, c'est une découverte totale, parce qu'effectivement, quand on voit un film de King Wu pour la première fois, on se souvient tous la première fois qu'on a vu un film de King Wu, parce que ça ressemble à rien de ce qu'on avait vu. Surtout à notre époque, parce qu'après, il y a eu Tigre et Dragon, il y a eu des tas de gens qui ont un peu repris ce style-là. Oui, mais Bruce Lee, c'était pas du sabre dans les arbres, avec une caméra qui voltigeait.
C'était lui,
d'incroyable
sabre.
Traveling, toi. C'était puissant les arts martiaux, mais King Wu, c'était quelque chose de très particulier. Et je pense que là, ça peut générer, rien que ça peut générer une cinéphilie en se disant, là, il y a une caverne à explorer, quoi.
Mais... Antoine Guérin, le premier mot qui vous est venu à l'esprit quand j'ai posé la question, c'est vitesse. Vous trouviez que peut-être les autres cultures cinématographiques européennes avaient un côté psychologisante, un peu engoncé, un peu figé, et que là, brusquement, on ouvrait la cage aux oiseaux et que quelque chose la boîte de Pandore était ouverte et tous les vents soufflaient.
Oui, mais ça peut être une vitesse aussi dans les sentiments, dans les choses
qui se passent. Oui, je veux dire, au sens global, bien sûr.
Oui, entre les êtres, tout ça m'a profondément touché. Et mais juste, parce que c'est important ce que vous disiez, Philippe, Christophe Chanclot, qui avait à l'époque Panda Film, il avait, je me souviens d'une table ronde, il avait eu cette explication-là, il disait qu'en fait, on a découvert tous le cinéma asiatique, alors géographiquement, c'est l'Est, au moment de la chute du mur de Berlin, en fait, comme si tout ça était arrivé comme une vague, donc 80, fin des années 80.
89.
Et effectivement, je trouvais finalement cette explication sur la façon dont tous ces films sont arrivés.
Plusieurs murs sont tombés ce jour-là. Fausto.
Oui, puis je pense que ce qui a séduit aussi une partie du public cinéphile à l'époque, c'était la dimension contre-culturelle un peu de ce cinéma-là. C'est-à-dire que ça venait un peu casser l'hégémonie cinéphilique occidentale, avec la découverte de productions qui, effectivement, allaient plus vite, étaient beaucoup plus outrancières. C'était effectivement des codes ou des archétypes qu'on avait pu voir par le passé dans un cinéma populaire italien, par exemple. Je trouve qu'il y a un parallèle assez intéressant à faire entre le cinéma populaire italien des années 70 et celui de Hong Kong, et aussi celui du Japon, par ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi l'impression, quand on soutenait ce cinéma-là, quand on s'y intéressait, de faire partie d'une sorte de club un peu dissident. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, se dire que, voilà, en fait, oui, on aime le cinéma, mais on aime aussi ce cinéma-là, et c'est aussi une manière de se démarquer. Alors, ça peut être aussi parfois un peu puéril, de vouloir marquer sa différence comme ça, mais il y avait cette sensation d'explorer un territoire que les autres ne connaissaient pas, en fait. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez ressenti. Moi, c'est, en tout cas, à titre personnel, un peu la manière dont j'ai abordé ce cinéma-là quand je l'ai découvert.
Si. Oui, je suis d'accord. Mais ça l'est toujours quand, par exemple, je reçois un mail et on me dit « Ah, Antoine, voilà, on a récupéré les droits de tel film ou tel film, des films que je cherche depuis des années. » Naturellement, là, on est pris de folie, on a envie de faire le travail tout de suite. Mais ça a été le cas. Pour L'Enfer des Armes, c'est plus de 5 ans de travail.
C'était un peu votre Graal, non, la sortie de L'Enfer des Armes. Enfin, un des Graals, peut-être, que vous poursuiviez.
Oui, c'est un film que j'avais découvert en VHS et que j'adore, donc là c'était il fallait savoir où se trouvaient les droits. D'ailleurs, c'est une amie de Patricia qui, au Canada, a réussi à faire la jonction, et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec l'ayant droit. Et après, il fallait trouver le matériel. Moi, j'avais entendu dire qu'il n'y avait plus de négatif original, etc., etc. Et en fait, si, on a retrouvé le négatif. On l'a fait scanner en 2K, donc à Hong Kong, parce qu'on ne peut pas sortir les négatifs originaux de l'endroit où ils se trouvent. Et puis ensuite, on a récupéré ce qu'on appelle des fichiers DPX, qui sont les fichiers haute définition. On a fait la restauration ici à Paris.
Est-ce que la conservation à Hong Kong, c'est une question très volatile, on va dire?
Alors, ce fut le cas jusqu'à la fin des années 90. Et lorsqu'il Hong Kong a lancé le Hong Kong Film Archive, là, il y a eu un changement de conscience. Et que la Celestial Pictures a récupéré le catalogue Shaw Brothers, qu'ils ont commencé à faire tout ce travail-là. Là, ça commence à évoluer un petit peu, et ensuite c'est un des points positifs de la HD, c'est qu'en fait plus aucune plateforme mondiale ne passe de la SD, donc de la qualité grosso modo standard. Donc en fait tous les cataloguistes, toutes les maisons, les producteurs, etc., sont obligés de numériser leurs films, les restaurer, ça c'est autre chose, mais en vue de les vendre et que ça passe sur les plateformes.
Mais est-ce qu'il vous arrive de restaurer? Parce que, par exemple, Vaillant Ones, là, qui est sorti cet été...
Faisons de l'analyse de cas.
Et vous êtes le seul au monde à proposer le film en 4K, donc en Blu-ray UHD 4K. Donc c'est vous qui avez mené cette masterisation 4K. Comment ça se passe?
Alors, nous sommes à l'origine, en fait, de la restauration. Nous n'avons pas produit la restauration. Nous avons produit ce qu'on appelle le HDR Dolby Vision, c'est-à-dire qu'on récupère, c'est un peu technique, mais
oui,
on récupère donc un fichier 4K qui est en SDR, et là, en fait, on lui... l'UHD Dolby Vision, c'est comme si vous faisiez une espèce de super étalonnage. Vous allez vraiment chercher les noirs, les couleurs, etc., etc. Ce qui, quand on sort un 4K, ce qui a un sens, parce que si c'est juste un SDR, finalement, la frontière avec le
Blu-ray est moindre.
Voilà. Donc on a financé ça. Par contre, sur le second film, on a récupéré juste, c'est un
donc City Called Dragon.
Voilà, un télécinéma HD en fait, et on a produit toute la restauration ici en fait.
小鬼子心眼多得很啊，不用收拾了。 我是博多金。 我想要鱼大油，活的死的都可以。
On va terminer par Valiant Ones, dont on parle quand même de manière récurrente tout au long de cet entretien. On en dit quelques mots et puis vous allez nous chanter la beauté du film, Antoine Guérin.
Alors, c'est le film de King Wu, le film de Wuxapen, donc de chevalerie, de sabre de King Wu, qui nous manquait dans l'édition domestique. Il était sorti en France au cinéma sous le titre de Pirates et guerriers.
Ce qui n'est pas faux-faux.
Ce qui n'est pas faux-faux. Mais ce qui est marrant, c'est que dans l'édition, vous avez une sorte de facsimilé du dossier de presse de l'époque, alors qui est vraiment hyper minimaliste. Il y a assez peu d'informations. Mais pour nous, c'est évidemment un film très précieux. Moi, c'est un film que je ne connaissais pas, un film de King Wu, alors qui est un peu à part parce qu'il l'a produit tout seul. Et donc, c'est un film, peut-être c'est celui de ces films où il y a le plus de scènes de combat. Et en même temps, de manière assez expérimentale. C'est-à-dire qu'on voit son sens du cadre merveilleux, mais par exemple, toute la fin, il y a un des intervenants qui dit qu'ils l'ont tourné en 3 fois 15 jours. Hein, donc c'est 20 minutes de film tourné en 3 fois 15 jours. Pourquoi 3 fois 15 jours? Parce qu'en fait, King Wu, qui finançait le film, n'avait plus d'argent. Donc aller
gagner de l'argent ailleurs pour
continuer à tourner. On s'aperçoit qu'au montage, c'est quasiment expérimental par moments. C'est-à-dire que ça va ultra vite. C'est pas monté comme un clip, mais on sent que ça s'entrechoque de manière assez folle.
Antoine Guérin.
Oui, alors, pour revenir juste au début de vos propos, je crois que c'est sorti chez c'est Pathé qui avait fait qui a fait la sortie, et on a mis le petit livret. L'idée, c'était de reproduire ce que Pathé avait fait au moment de la sortie. Je sais pas du tout pourquoi le film n'est pas ensuite le parcours traditionnel VHS, etc. C'est un film qui était resté totalement inédit sur le support physique. Et pour les droits, c'était la King Wu Foundation, en fait. Ce n'est pas un vendeur ou un producteur, c'est la King Wu Foundation aux États-Unis. Et oui, c'est un film particulier qui arrive plutôt vers la fin de sa carrière. C'est son dernier grand film de costume et de Wu Xiapian et de sabre. Et c'est Sammo Hung qui règle les combats et qui a un second rôle. Ouais, ouais. Et effectivement, non, c'est cette énergie qui est incroyable, qui est différente un petit peu de l'énergie de Running the Mountain ou de Touch of Zen. Voilà,
parce qu'il faut dire que vous êtes maintenant devenu un spécialiste de l'édition King Wu. Vous avez fait deux magnifiques coffrets consacrés à King Wu. Et que ça, c'est en quelque sorte la suite, quoi.
Oui, c'était. Je crois qu'il nous reste un film qui est son tout premier film que nous n'avons pas sorti, mais pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas de matériel. Donc c'est pas pour maintenant, mais le King Wu volume 2 avec le numéro des cahiers du cinéma. Hein, on en a pas parlé tout à l'heure, mais qui fut à un moment donné important pour beaucoup de cinéphiles qu'on a reproduit. Et oui, pour moi, c'était. On en revient donc au début. C'était rendre hommage à ces couvertures de positif, faire le cercle, terminer cette boucle.
On termine avec vous, Fausto Fazulo, une question.
Oui, sur la question du matériel, en fait, est-ce que, sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'éditeurs indépendants sur le marché français, mais aussi sur le marché britannique ou même aux États-Unis, est-ce qu'il y a une solidarité entre les éditeurs internationaux? C'est vrai que je pense par exemple à Terracotta, 88 Films, enfin d'autres éditeurs qui travaillent le même type de catalogue à l'étranger. Est-ce que, je ne sais pas, vous passez des coups de fil, vous vous envoyez des mails quand il y a du matériel qui est repéré? Est-ce que ça se passe comme ça? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un peu cette idée de maverick, chacun dans son coin, qui va essayer de dénicher les bonnes affaires, si je puis dire?
Alors, je ne veux pas en dire trop, mais il y a des coups de fil.
D'accord, ok.
L'international du
cinéma. Oui, il y a des...
Est-ce que vous êtes tous animés par... Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'imagine que les patrons de ces maisons anglo-saxonnes, en fait, sont animés par la même passion que vous, donc...
Oui, il y a des coups de fil. On travaille en des coups de fil.
Il y a des coups de fil.
Il y a le Horeca a sorti Valiant Ones également. Ils nous ont pris en fait notre master. Donc voilà, on essaie de se rendre des services. Et dans le futur, il y a des projets où on passe pas mal de coups de fil parce qu'il y a des projets qu'on peut pas faire tout seul.
Oui, c'est ça. Oui.
On est deux. Là, c'est une petite structure. On peut, comme on prend les droits pour des territoires en fait. Donc
on peut se partager les territoires.
Exactement.
Financer une restauration à plusieurs, c'est plus simple, par exemple.
Bonne entente. Oui. Dernière question, Antoine Guérin, pourquoi Spectrum?
Patricia, je vous laisse répondre. Spectrum Film.
Ben, il me semble qu'on est parti du spectre de la lumière, et puis en latin, UM, ça, c'était, C'était, je sais pas, le UM sonnait bien.
Oui, et puis ça, en anglais ou en français, on peut le dire, Spectrum Film, c'est, voilà, c'est, et le logo, je rends hommage au travail de Patricia, et le logo Spectrum, en fait, est une photo prise à Hong Kong, juste à côté des bureaux de Johnny To.
Longue vie à Spectrum Film, et puis merci donc Antoine Guérin, Patricia Brand, d'avoir été les invités de Mauvais Genre. Voilà, tous les renseignements possibles et disponibles sur le site de France Culture à la page Mauvais Genre pour découvrir calmement et détailler le richissime catalogue de Spectrum Film, quand même un des éditeurs les plus impressionnants dans ce domaine du cinéma de genre, notamment le cinéma asiatique.
Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà, une entrée digne de lui pour accueillir Philippe Baudouin, un choix évidemment de Laurent Polleret, qui à la question « De quoi s'agit-il » m'a répondu « Oh, un vieux truc, très bien. Des vieux trucs comme ça, on en redemande. » Alors Philippe Baudouin, je parlais de plusieurs films, plusieurs livres pour qualifier votre actualité. Donc on va les énumérer, maintenant on est face quand même à l'ensemble. Donc il y a Posthume d'abord, Photographie de l'après-vie et reliques post-mortem aux éditions Cernunnos, donc les photos de défunts, toute une collection particulière que vous avez exploitée, qui est visible en ce moment à Paris.
Oui, donc c'est le pendant d'une exposition Les Immortels qui a lieu à la librairie Alain Brieux et qui est une sélection issue d'une collection privée, celle d'Hervé Bonnard, qui est artiste et qui amasse ses photographies en écumant les vides-greniers et les marchés opus depuis 30 ans. Il a constitué, à ma connaissance, la plus grande collection de photographies post-mortem en France. Près de 600 photos au total.
Alors on va revenir sur ces photos. Deuxième livre, Le Livre des Ombres d'Alix Paré, que vous avez préfacé, qui est paru aux éditions du Chêne. Alors, vision surnaturelle et force occulte dans la peinture du 19e siècle. Là, on est dans un secteur beaucoup plus, connu, topographié, classique.
Mais quand même,
moi, qui suis quand même un peu un habitué de la chose, j'ai découvert des toiles très, très méconnues parce que le classement fort opportun est à base de thématiques mythologiques, légendaires. Il y a aussi bien Brocéliande que la Méduse. Donc là, on voit
les anges, les démons, les fantômes, les spectres. Effectivement, c'est l'idée de revisiter l'histoire de l'art, précisément fin 18e, essentiellement le 19e siècle, à travers le prisme de la magie, magie noire essentiellement, et l'occulte.
Et de la peinture, bien évidemment. Alors en plus, on va en parler un peu plus précisément, mais l'éditeur a bien fait les choses, puisque la tranche était un titre courant sur la tranche, blanc sur noir, assez menaçant. Enfin bon, on va détailler la chose. Autre livre, Comme si la nuit avait dévoré le monde, petite histoire de la photographie des rêves, édition Magie Cité. Là, c'est votre secteur fétiche, justement, des photographies et du paranormal. Et puis deux revues où vous avez donné des articles. La revue Zone Critique, où vous découvrez votre serviteur en ouverture avec un œil assez inquiétant. En tout cas, Philippe Baudouin, lui, a donné un article intitulé « Capitalisme hanté, possession et dépossession ». C'est sur un peu les poltergeists et les possessions domestiques, non plus les châteaux et autres ruines.
La question des spectres à l'âge industriel et capitaliste, évidemment.
Et le plus étonnant, c'est dans cette revue que nous aimons tant, le numéro 4 de la revue Brasero, revue de contre-histoire. Vous avez consacré une étude approfondie, donc basée sur des archives, celles notamment de la préfecture de police de Paris, consacrée à Geneviève Zepfel, la voyante de Vichy, qui est une sorte de d'égérie... pas dire spirit de la collaboration hitlérienne.
Oui, en tout cas d'un spiritisme de pacotille, une voyante pro-hitlérienne, pro-nazie, hein, disons-le clairement, qui a sévi dans les années 30 et surtout dans les années 40, dans le Paris occupé, avec l'aval, l'autorisation des autorités occupantes et du pouvoir en place.
L'expression avec l'aval de la collaboration m'a toujours un peu amusé, mais là c'est vrai qu'elle est très bien employée. Alors, essayons un peu de faire une synthèse, Philippe Baudouin. On se connaît depuis des années. Vous venez présenter vos travaux et vos enquêtes. La première, c'était sur ce gendarme spécialisé dans la chasse aux fantômes.
Émile Tizané,
spécialisé dans la poursuite et le débusquer les fantômes et les spectres et les poltergeists avec toute une carte de France, enfin, qui est le personnage qui était devenu une vraie vedette. Si on essaie de faire une synthèse de tout ça, on peut dire qu'il y a deux pôles un petit peu dans vos recherches, Philippe Baudouin. D'une part, il y a toutes les tentatives scientifiques, artisanales, voire industrielles, de capter, de maîtriser, d'enregistrer le paranormal, je dirais l'au-delà, de ramener l'au-delà spirit, l'au-delà spirituel, vers un en-deçà qui est celui de la science et de l'industrie. Alors ça, c'est un premier pôle. Et le deuxième pôle, c'est d'arriver comme à débusquer des figures peu communes. Alors là, ce soir, c'est Geneviève Zepfel, mais il y en a eu d'autres. On vient de citer le gendarme, qui s'est aussi mal conduit pendant l'occupation, puisque il a participé à la chasse aux Juifs. Donc, il y a ces deux pôles. D'une part, les techniques. Il y a toute une analyse technique, voire technologique. Et de l'autre, une sorte de prosopographie. Un jour, vous nous ferez sûrement le bottin historique de toutes les voyantes, les médiums, les visionnaires, les apparitionnaires, tous ceux qui ont témoigné d'avoir vu autre chose que ce que nous, pauvres mortels, pouvons voir. Donc, comment vous travaillez un petit peu sur ces deux thèmes?
En fait, tout part d'une fascination pour la très grande polysémie du terme de médium.
Alors, disons que vous êtes donc universitaire, que vous avez travaillé sur Walter Benjamin, vous avez fait une thèse sur Walter Benjamin et ses écrits, et ses activités radiophoniques. Et là, on voit d'ailleurs l'influence peut-être de Benjamin dans tout cela.
Oui, en fait, mes recherches à l'université, dans un modeste mémoire de Master 2, hein, il faut rendre à César ce qui est à César, et non pas une thèse, j'avais consacré tout un travail de recherche sur les émissions radiophoniques de Walter Benjamin jusqu'à sa mort, et donc, effectivement, qu'il avait réalisé notamment à destination des enfants, mais pas que, également des parents, où pour lui, combattre le nazisme passait également par la prise de parole et la prise de parole radiophonique. Il était question d'éclairer, au sens Aufklärung, hein, vraiment d'apporter les lumières radiophoniques auprès des auditeurs. Et Benjamin, on le sait peut-être un peu moins, s'est beaucoup intéressé justement à la fin des années 20, les années 30, quand il flânait dans Paris, au petit monde des voyants, des astrologues, des chiromanciens, etc. C'est quelqu'un qui avait quand même un certain attachement au surréalisme aussi, et on sait combien les surréalistes ont été très influencés par la question de la médiumnité. Et Benjamin a flâné comme ça et a essayé de sentir l'humeur du temps et s'est montré très sensible à ce que j'ai appelé le Paris fantastique dans cet atlas que j'ai fait paraître récemment.
Alors, c'est le livre que j'ai oublié, préface de Paco-M Thielman, l'atlas du Paris fantastique avec toute une cartographie de 20 lieux et de 20 personnalités là
c'est
aussi.
Ça. Et des photographies réalisées par Cyril Abad où absolument. On a arpenté Paris à la recherche justement de cette dimension surnaturelle fantastique. Tout cela, effectivement, vous avez raison, prend naissance dans la découverte que j'ai pu faire de l'œuvre de Walter Benjamin, du philosophe qu'il était, de l'historien de l'art, de la photographie, mais aussi de l'amateur, du marcheur qu'il était, cherchant justement à débusquer les spectres qui rôdaient notamment dans Paris.
Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces deux pôles de recherche? D'une part, toute l'ingénierie que l'on déploie, le discours, les justifications, les résultats, puisque vous êtes aussi, vous exposez depuis plusieurs années les photos. Il y a tout cet aspect. Alors, pour vous, quel signe? C'est le signe de quoi? C'est le signe d'un désespoir profond, parce qu'on n'arrivera en définitive jamais à capter vraiment tout cela? Ou est-ce que c'est cette espèce de combat héroïque thématiques qui vous intéressent, de la science contre la nuit?
Ce qui m'intéresse, c'est notamment de tordre le cou à cette idée bien connue qui est celle de Max Weber, comme quoi effectivement nous serions dans une société profondément désenchantée. Non, c'est tout le contraire que montrent ces expériences et ces parcours. On vit encore, et notamment dans un Paris qui est encore en mesure de nous donner à sentir, à percevoir l'enchantement, la magie, etc., etc. Et ce qui me touche, moi, dans toutes ces expériences que j'ai pu raconter, que j'ai essayé de relater, qu'il s'agisse de Pierre et Marie Curie qui vont expertiser une médium au début des années 1900, le gendarme tisané dans les années 30 qui va arpenter la France et essayer de voler au secours des habitants des maisons hantées. Bref, à chaque fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est le degré d'adaptation finalement de ces enquêteurs, qu'ils soient physiciens, qu'ils soient gendarmes, qu'ils soient policiers, magistrats, astronomes, pour justement fournir un effort avec leurs instruments, leurs méthodes, pour explorer et appréhender des phénomènes qui précisément sont inadaptés, ou en tout cas sont bien difficiles à maîtriser, à saisir et à comprendre. Voilà tout ce travail d'investigation qui me fascine, qui m'intéresse en tant qu'historien. Moi, j'ai aucun lien de croyance à ces phénomènes-là. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est la méthode et la méthode d'observation.
De la playlist de Laurent Polleret dans cette émission largement mystérieuse. Alors, ce premier album de Philippe Baudouin, posthume sur les photos de l'après-vie, là, on est dans quelque chose qui, ma foi, échappe un peu, je dirais, au mystère du spiritisme, aux manigances des voyants et des médiums. Des êtres humains meurent et leur famille organise, je dirais, tout l'apparat et l'appareil de l'enterrement funéraire et macabre. Et parmi ces moments clés, il y a les photos.
Il y a les photos.
Et alors, qu'est-ce que justement les photos disent de tout ce dont vous parlez? Parce que, évidemment, les défunts, alors il n'y a pas que des gens morts paisiblement, puisqu'il y a aussi des fusillés, il y a des communards, il y a des révoltés mexicains. Mais d'une manière générale, il y a une sorte de mise en scène du corps défunt. Et là, qu'est-ce qu'on peut en déduire?
On en revient finalement à cette histoire qui est à l'origine même de l'histoire de la photographie, qui est celle de la trace et de l'empreinte. Parce que concrètement, ce qui, moi, m'a vraiment touché dans ces images, dans cette pratique oubliée qui est celle de la photographie post-mortem, c'est bien évidemment de comprendre pourquoi ces photographies avaient été réalisées, dans quelle intention. Premier objectif à l'époque, c'est d'attester le décès d'une personne, mais aussi et surtout conserver la mémoire au sens privé, familial et même collectif de l'âme de cet ancêtre, et finalement faire en sorte que cela lui survive. Donc il est question de survivance, et on rejoint peut-être mes affinités pour l'histoire du spiritisme, où justement également la photographie a servi la cause des adeptes du spiritisme, avec les fameuses photographies spirites. Quelque part, moi, ce qui m'a intéressé, c'est la manière dont ces photographes ont exploité aussi à leur manière l'imaginaire de la mort, et cette frontière poreuse entre la vie et la mort qui peut réunir à cet instant T, dans ces photographies, le monde des vivants et le monde des défunts.
Alors, posthume, c'est ceux qui sont partis, ce sont les morts, mais il y a également ceux qui sont partis et qui reviennent, sans que leur retour soit forcément souhaité, et en tout cas qui reviennent dans un espèce de moment comme ça, un peu de panique. Et l'article que vous publiez dans Zone Critique, le numéro est entièrement consacré au spectre, et évidemment Mauvais Genre vous le recommande chaleureusement. L'article que vous consacrez justement dans Zone Critique est traite de cette espèce d'incursion soudaine et terrorisante du spectre et du revenant dans des appartements.
Oui.
Parce qu'on est habitué, nous, évidemment, Fausto Fazulo, là, le dernier numéro de Mad Movie, c'est Danse Macabre, de DVD joint, c'est Danse Macabre d'Antonio Margheriti, donc les ruines gothiques, les bourgs rhénans, tout cet apparat habituel. Mais là, vous citez un texte d'Henri Michaud où on dit que, ben, ma foi, tout ce qu'on a conçu pour se protéger, eh bien, c'est attaqué, c'est brimé, et que là, tout échoue.
Oui, parce que finalement, les spectres sont partout. Ils sont omniprésents, omniscients aussi. Le fantôme, c'est une question universelle qui touche, d'un point de vue historique comme géographique, à peu près tous les continents et toutes les traditions. Et là, ce qui est d'assez intéressant, que j'ai essayé d'explorer dans cet article-là, dans ce court texte, c'est que finalement, il y a presque une prolétarisation de l'envahissement des appartements par les revenants, par ce qu'on va appeler les poltergeists ou les esprits frappeurs, et qu'Henri Michaud, dans un texte peu connu, hein, paru dans La Voix de l'insubordination, nommé, désigné sous la formule les attentats domestiques. Hein. Il parlait d'attentats domestiques pour ces phénomènes-là de hantise, concrètement, d'esprits frappeurs, de revenants, où du jour au lendemain, on voit la vaisselle valdinguer, des coups frappés sans qu'on puisse être capable d'en trouver l'origine, et finalement être face à des phénomènes invisibles qui viennent perturber la maison, ce qu'on appelle la maison hantée, hein, généralement.
Carrie et Paul Poltergeist,
oui, et puis même
Mad Movies,
tout un pan du cinéma fantomatique japonais qui a émergé dans les années 80-90, où on voyait effectivement ces apparitions dans le quotidien. Je pense notamment à Darkwater, par exemple, d'Hideo Nakata, ou même des fantômes un peu plus technoïdes, comme dans le Cairo de Kiyoshi Kurosawa.
Oui, parce que là, effectivement, autant qu'un fantôme apparaisse dans des lieux qui semblent être faits pour qu'il apparaisse ou qu'il se manifeste, c'est un peu banal. Si c'est la nuit, si c'est dans un parc et tout ça, enfin, il y a tout un rituel classique hérité des lumières, enfin, des lumières finissantes et du romantisme. Mais quand ça apparaît dans un deux pièces cuisine,
et c'est là où
lieu, là, c'est là où vraiment la terreur apparaît.
C'est la terreur parce que c'est aussi le moment de bascule dans l'histoire de la psychologie où finalement on se dit, bah, c'est peut-être moins le fait de revenants, de fantômes, que d'une forme agissante de l'esprit humain, de la psyché, et qui serait peut-être propre aux adolescents et aux adolescentes. Et là, on retrouve la figure de Carrie, avec King, avec Brian De Palma, etc., où justement, la puberté serait ce moment où une force psychique incontrôlable, qu'on n'arrive pas à maîtriser, à canaliser, pourrait se déployer dans l'environnement, notamment l'environnement domestique, la maison, et qui pourrait peut-être venir détruire les meubles, la maison, et surtout s'attaquer à l'autorité première qui est celle du père.
Hein, ou de la mère, comme dans L'Exorciste.
Oui, ou même de la mère, comme dans Carrie. Hein.
Comme dans Carrie, exactement. Oui, absolument. Non, mais là, ce qui est intéressant, c'est quand les puissances paranormales, les puissances de la nuit viennent malmener et détruire ce qui est le fondement de la société. Parce que d'une certaine façon, quand on en fait comme ça des phénomènes un petit peu célestes, comme ça, ça va. Mais quand c'est véritablement dans le quotidien le plus banal, c'est là où l'inquiétude est quand même totale.
Oui, parce que justement, dans ces maisons qui tuent, hein, c'est le titre d'un ouvrage paru dans les années 70 sur les maisons hantées, hein, les maisons qui tuent, souvent c'est la figure du père, la figure patriarcale qui incarne cette menace et que face à laquelle vient se révolter l'adolescente ou l'adolescent dit hanté. C'est lui qui est porteur de hantise et c'est lui qui serait, d'après justement toutes les études qui ont été menées dans la psychologie puis la parapsychologie, hein, entre la fin du 19e et les années 50, 60 et même maintenant, l'idée c'est de basculer et de se poser la question finalement, en dehors de toute forme de revenance, si, pourquoi pas, l'esprit humain pourrait être capable de tels phénomènes.
On dit un mot de Geneviève Zepfel, parce que ça...
On va essayer en quelques secondes,
oui.
Très bref, mais on va essayer d'être efficace. Geneviève Zepfel, c'est un personnage très étrange, très bizarre. C'est une femme qui a vu le jour en Bretagne et qui va connaître une certaine forme de célébrité, paradoxalement, dans les années 30 et surtout les années 40, qui est une voyante, une prophétesse, qui se présente sous l'apparence d'une druidesse, avec une mise en scène assez incroyable et qui va notamment à Paris sévir durant l'occupation en donnant des prédictions publiques, des performances publiques devant des milliers de personnes, notamment à la salle Pleyel, à la Mutualité, d'autres grandes salles parisiennes, et qui en plus de ça va avoir l'accord des Allemands et va notamment inquiéter le gouvernement français à l'époque parce que elle est pro-nazie, ouvertement pro-nazie, mais lorsqu'elle va être condamnée au moment de la libération, elle va expliquer qu'elle n'est que médium et qu'elle n'a fait que transmettre des messages venus du ciel, des anges avec qui elle communique au quotidien.
Ça a convaincu les juges ?
Alors ben non, elle a été frappée 10 ans d'indignité nationale et l'expert, le psychiatre qui l'a expertisé, était le psychiatre qui a expertisé le docteur Petiot, figurez-vous. Voilà, sacré personnage.
Le psychiatre et les deux dont
exactement,
nous parlons,
les deux réunis.
Le numéro 4 de la revue Brasero. On passe maintenant aux chroniques dans Mauvais Genre et on commence bien sûr avec Béatrice Dalle et Pasolini.
Je suis une force du passé. Tout mon amour va à la tradition. Je viens des ruines, des églises, des villages oubliés, des Apennins, des Préalpes. Et moi, j'erre sur la Tuscolana. Comme un fou, sur la pierre comme un chien son maître. Je viens des ruines, des églises, des rétables d'hôtels, des villages oubliés, des Apennins et des Préalpes où mes frères sont nés. Et moi, je rôde.
Voilà, le 20 novembre sortira La Passion de Béatrice consacrée, Esther, à cette quête intérieure de Béatrice Dalle tout au long du souvenir et de la mémoire italienne de Pier Paolo Pasolini.
Oui François, La Passion selon Béatrice de Fabrice Duvels, documentaire en noir et blanc, et c'est déjà trop beau. Béatrice Dalle en Italie sur les traces de son grand amour Pasolini. Pèlerinage passionné, le Golgotha à cœur ouvert. Il y a le jour où tout a changé. Béatrice avait 17 ans. Dans une petite salle de cinéma de Saint-Michel, elle rencontre Salo. C'est comme si Pier Paolo était assis à ses côtés et lui tenait la main, lui murmurait ses vers, son poème pour une petite fille, « Tu es une rose qui vit et ne parle plus ». 40 ans après, Béatrice traverse les stazioni italiennes sur les traces des lieux que Pasolini a aimés, bénis, filmés. Bologne, le Castel d'Almonte, Rome où il vivait avec sa mère. Chaque soir à 22h, il quittait le foyer familial avec cette règle en tête. Ne jamais baiser le même mec deux fois. Pasolini, premier hippie. Il y a Béatrice en larmes devant l'évangile selon saint Matthieu, tournée entre autres à Ginosa, petit village des Pouilles où la Trinité est encore gravée dans la roche. « Pays couleur égarée », chantait-il. Béatrice pleure. Personne n'aura aimé Pasolini plus passionnément qu'elle. Elle n'aime que les hommes morts. Les morts ne déçoivent jamais. Elle aime Venise pour Vivaldi, le Christ, car punk révolutionnaire, Giotto et la perfection du concerto numéro 21 pour piano. Entre Pier Paolo et Béatrice, un pacte. La même vitalité désespérée, une foi dans le péril, le danger, la menace, frôler la ligne rouge. La nuit du 1er au 2 novembre 1975, assassinat de Pasolini qui n'a surpris personne. Sa dernière interview où il parlait d'une tragédie, quelque chose de terrible, d'irrémédiable. Il n'y a plus d'êtres humains, mais d'étranges machines qui se cognent les unes contre les autres. La Passion selon Béatrice de Fabrice Duvels, c'est une histoire d'amour folle, sur fond de Mozart et de David Bowie, comme seul Pasolini a su en avoir. Il y avait la Callas, il y a désormais Béatrice Dalle. Je terminerai sur ces vers, extraits du recueil Poésie en forme de rose, 1964. Il est monstrueux, celui qui est né des entrailles d'une femme morte. Et moi je rôde, fœtus adulte, plus moderne que n'importe quel moderne, pour chercher des frères qui ne sont plus.
Merci Esther, sortie donc de ce film le 20 novembre. On passe maintenant à un autre chant, un autre type de figure avec vous, Fausto Fasulo.
Ce truc va vous surprendre. C'est ma garde-robe. avec tous mes t-shirts. Mais en fait, je ne porte que celui qui est sur moi. C'est mon préféré. Et maintenant, je vais disparaître.
Fausto, donc, hommage à quelqu'un dont on vient d'entendre la voix et qui faisait visiter un journaliste envoyé par Trax Arte son extraordinaire garde-robe de t-shirts. C'est tout le temps la même.
C'est ça. C'est tout le temps le même, pardon. Exactement. C'est littéralement la même tenue que le personnage de Charlie dans Où est Charlie. Et le journaliste en question, c'était Yves Montmeilleur, qui effectivement s'était déplacé au Japon pour faire un sujet sur Kazuo Umezu, que j'avais eu la chance de rencontrer aussi en 2017 dans cette maison bariolée, puisqu'en fait, la maison est aux couleurs de ces t-shirts à manches longues. Donc, assez repérable. Le mantra de Kazuo Umezu, c'était « Vous allez vous déchirer la mâchoire de peur jusqu'aux oreilles », en fait. C'était la note d'intention de ses travaux. Kazuo Umezu, ou Umez, comme il souhaitait qu'on l'appelle, ce n'est pas un mangaka d'horreur, c'est le mangaka d'horreur, en fait, François. C'est le grand réformateur du genre tout entier. C'est un insatiable expérimentateur de nouvelles formes. C'est l'inventeur possédé d'expressions qui irriguent encore aujourd'hui de leur folie la bande dessinée japonaise. Alors ce gosse de la campagne, fils d'instituteur, exposé très tôt aux légendes locales, comme probablement vous, n'est-ce pas, Philippe Faudouin,
hein ? Exactement.
Au récit de Lafcadio Hearn et aussi au monstre de la Universal, dont le Frankenstein de James Whale est son favori. Il dessine ses premiers mangas alors qu'il est encore à l'école primaire, connaît sa première publication officieuse durant ses années collège et entame sa carrière véritablement professionnelle à moins de 20 ans. Alors il est d'abord inspiré par le style de Tezuka, comme à peu près tous les mangakas de cette époque qui commencent, et il décide très tôt de s'en éloigner afin d'affirmer une identité graphique propre et ainsi d'imposer un style qui fera date entre délicatesse et expressionnisme, violence et naïveté, rondeur et précision. Mais Kazuo Umezu, c'est avant tout un homme de recettes, de formules, c'est un savant qui cogite, triture, malaxe et cherche constamment. Il identifie rapidement trois ingrédients essentiels qui permettent selon lui de produire un bon récit d'horreur. Notez bien autour de cette table, oui. Les chats, les serpents et les araignées. Mais il fera surtout de sa spécialité les récits d'enfance maltraitée, d'adultes toxiques, de mères sadiques, citant notamment La maman perverse de baptisme, un manga disponible chez Glénat dans lequel une actrice qui refuse de vieillir décide de greffer son cerveau dans la tête de sa propre fille. On recommandera donc à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs de se jeter sur L'école emportée, aussi disponible chez Glénat, mais aussi sur La femme serpent, sur Orochi, Le vœu maudit, La maison aux insectes, que le réalisateur Kiyoshi Kurosawa a d'ailleurs adapté pour le cinéma, Je suis Shingo, son grand chef-d'œuvre science-fictionnel récompensé à Angoulême en 2018, la comédie scato-délirante Makoto-chan, et enfin un manga dont le titre est taillé pour vous, François, La main gauche de Dieu, la main droite du diable. Bref, vous l'aurez compris, il faut tout lire et pour ça c'est du côté des éditions Glénat et évidemment de l'incontournable Lézard Noir que ça se passe.
Merci Fausto, effectivement, tous les renseignements à retrouver sur le site Mauvais Genre de France Culture. Je signale aussi, puisqu'on est dans la veine japonaise, que Godzilla est en couverture et un dossier abondant lui est consacré dans le dernier 387e numéro de Mad Movies, qui vous offre également Dans ce macabre d'Antonio Margheriti en supplément. Merci Philippe Baudouin d'être venu ce soir. Vous reviendrez, j'en suis sûr. Je signale posthume aux éditions Cernunnos. Le livre des ombres, c'est aux éditions du Chêne. Comme si la nuit avait dévoré le monde, les photos de rêve aux éditions Magicité. Je signale évidemment le dernier numéro de Zone Critique consacré au spectre et le numéro 4 de la revue Brasero avec l'article donc sur Geneviève Zepfeld
et
l'Atlas du Paris. Fantastique.
Avec Cyril Abad. Exactement.
Et puis merci donc à nos chroniqueurs et puis à Antoine Guérin et Patricia Vant d'être venus à Mauvais Genre. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent, Paul Rey, François Saint-Jour, Claire Poinsignon, Claire Martin-Dugard, Esther Teillard, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. On aura le plaisir d'entendre la romancière norvégienne Maren Uthaug et de découvrir le thriller théorique de Romain Noël. Je ne vous en dis pas plus.
Vous êtes bien sur France Culture.
Le journaliste et dramaturge Armand Gatti aurait eu 100 ans en 2024. Sa vie et son œuvre théâtrale, littéraire, poétique sont une traversée de ce siècle.
Mais un couple, au fond, c'est une caserne. C'est inimaginable le nombre de gens qui s'y installent, y vivent pendant un an ou un jour, disparaissent, sont remplacés par d'autres, sans compter ceux qui y font carrière.
La scène imaginaire d'Armand Gatti, ce dimanche à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Chanteuse et compositrice, Kerenan partage et commente 20 poèmes qui l'accompagnent dans sa vie et son écriture.
Parfois, André Chédid arrive à verbaliser des questionnements et des craintes. C'est presque pour nous rassurer. Moi, elle arrive à me rassurer.
L'instant poésie de Kerenan, du lundi au vendredi à 21h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture, les fictions.